Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bienvenue à ce journal présenté par Belinda Bossouma. Voici le sommaire. Catastrophe de Calais au sud Kivu. 10 jours après, les besoins demeurent énormes. Entre-temps, les humanitaires dans la MONUSCO sont déployés sur place pour assister les sinistrés et prévenir le pire dans l'avenir. Et le coordonnateur humanitaire Bruno Lemarquis décide d'allouer 3 millions de dollars du fonds humanitaire pour renforcer l'assistance. De son côté, hier au cours du Conseil des ministres, le gouvernement a déclaré Calais zone sinistrée. 2 jours de panique et de fortes tensions à Nzenga dans le territoire de Beni. À la base, l'interpellation par la population des rebelles ADF dont l'un était déguisé en fou. La société civile locale salue la vigilance de la population et attire l'attention des services de sécurité. Et puis, une délégation de la MONUSCO conduite par le chef de bureau en Ituri vient de séjourner à Wallis-et-Vankoutou. Il était question d'examiner des mécanismes à mettre en place, notamment pour renforcer la sécurité et permettre le retour des déplacés dans leur village. Pour en parler, nous recevons Faustin Mboma, président de la communauté Niali de Tchabi. Mais avant de déballer ces titres, d'abord cette nouvelle. Un accident de circulation est survenu à Bukavu la nuit dernière vers 23h. Plusieurs personnes sont mortes et d'autres blessées. Il s'agit d'un minibus avec des passagers à bord qui a fini sa course dans un ravin de plus de 10 mètres de hauteur. Cela s'est passé à quelques mètres du lycée Ouima, à l'endroit récemment réhabilité. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Madame, Messieurs, bonjour. 10 jours après la catastrophe de Calais au sud Kivu, la communauté humanitaire est fortement déployée sur terrain pour assister les sinistrés et prévenir le pire dans l'avenir. La MONUSCO et d'autres agences des Nations Unies ont remis leur assistance aux sinistrés de Bouchouchou hier, mais les besoins restent énormes. Emmanuel Elameji nous en parle.
L'assistance du personnel de la MONUSCO Bukavu a été remise à Bouchouchou par la chef de bureau MONUSCO, Madame Cecilia Piazza. C'était en présence de l'administrateur du territoire de Calais et des autres membres du comité de crise.
Nous vous confions en tant que comité de crise ces vivres pour les communautés. Et il est important que l'assistance aille aux plus vulnérables et qu'elle se fasse en toute transparence. Donc nous comptons sur vous, monsieur l'abbé. Il s'agit plus précisément de haricots, riz, farine de maïs, de farine de manioc, sucre, huile végétale, savon de carton, ainsi que bagne 50 pièces.
La mission onusienne au sud Kivu s'engage à rétablir dans l'urgence le trafic entre Bouchouchou et Nyamukubi sur la RN2, tronçon de 3 km coupé par les dégâts du glissement de terre et inondation de jeudi 4 mai. L'UNICEF, l'OMS, OCHA et d'autres organisations sont présentes sur les lieux du drame de Calais. Le PAM a notamment livré 8 tonnes de biscuits à haute teneur énergétique pour couvrir les besoins d'une semaine des communautés affectées. Le PAM prévoit ainsi d'atteindre 6000 personnes dans la localité de Bouchouchou et 5000 à Nyamukubi. Emmanuel Elamejo Kabedi, de retour de Bouchouchou, Radio Kapi.
Par ailleurs, en soutien aux opérations en cours à Calais par les humanitaires, le coordonnateur humanitaire Bruno Lemarquis a décidé d'allouer 3 millions de dollars américains du fonds humanitaire pour renforcer les opérations en cours dans les domaines prioritaires de l'accès à l'eau et aux services d'hygiène, la santé, les abris et les articles ménagers, la sécurité alimentaire et la protection de l'enfance, l'enterrement digne et sécurisé des corps et la prise en charge des blessés, la protection contre les risques de violence basés sur le genre et la reconstitution des documents civils égarés ont également été identifiés comme des actions urgentes à mener. Bruno Lemarquis l'a fait savoir dans un communiqué publié hier vendredi. Toujours à propos de ce drame, sachez que 40 sinistrés de Calais, parmi lesquels 2 nourrissons, sont internés à l'hôpital général de référence de Bukavu. Ces survivants des graves inondations de Calais avaient été transférés par le gouvernement avec l'appui des partenaires humanitaires pour des soins appropriés, notamment des interventions chirurgicales. Jean Kassami.
Les survivants du drame de Calais ont reçu vendredi la visite du gouverneur de province sur leur lit de malades. Teongo Abidje Kassi a constaté que leur état de santé était stable après avoir subi les interventions chirurgicales. Il a promis de prendre les 2 nourrissons en gardiennage avec l'intention de les adopter au terme d'une procédure judiciaire. Le parent de ces nourrissons serait péri lors de la catastrophe. Un comité provincial de coordination est déjà mis en place. Il est chapeauté par OCHA en étroite collaboration avec les gouvernements provinciaux du Sud-Kivu. Ce comité aura pour tâche de répondre aux urgences de la catastrophe de Kalehe, mais aussi identifier et classer les états des besoins des sinistrés suivant l'ordre de priorité. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Toujours au sujet de la catastrophe de Calais, en dehors de plus de 430 corps qui sont découverts, les recherches se poursuivent sur les deux sites de Bouchouchou et Niamoukoubi. Les sinistrés qui ont perdu leurs membres de famille tiennent toujours à voir leurs corps pour un enterrement digne. Certains d'entre eux s'expriment ici au micro de Emmanuel Elameji Wakabedi.
Je m'appelle Anchère Mugenzi. On a perdu un grand nombre de nos familiers, un grand nombre de nos amis. Leurs cadavres ne sont pas retrouvés jusqu'à aujourd'hui. Ici, nous sommes toujours dans la recherche de leurs corps parce que vraiment, on ne sait pas quoi on peut faire maintenant.
Il y a encore espoir, continuez. On va trouver les corps encore intacts, vous pensez?
Il y a l'espoir qu'on peut trouver leurs corps, mais il sera difficile de savoir si ce sont nos familiers ou si que nous puissions faire leur enterrement. Nous, on ne sait plus quoi on peut faire dans la vie. Nous sommes frappés psychologiquement, on ne sait plus ce qu'on peut faire dans la vie.
Je suis Tombola Habali Philippe, originaire de Bouchouche. J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère et mes trentaines de comme ça, familiers.
On n'a pas trouvé le corps, je ne sais pas. C'est compliqué pour nous.
Mon nom c'est Chizabali Galilée, enseignant de l'EPE Bouhaïre. Alors j'ai perdu ma femme avec ma première fille aînée. Et j'ai perdu aussi ma mère biologique. Ils ont coulé avec de l'eau ici, avec mon beau-frère, avec mes trois enfants que j'ai gardés de ma sœur. Voilà que nous sommes beaucoup désolés. Nous ne voulons pas encore de vivre encore à Bouchouche. Nous voulons être délocalisés.
Rendons-nous en Ituri à présent. Plus de 8000 familles de déplacés installées dans le groupement Boloma, chefferie de Walendubindi dans le sud du territoire d'Irumu, vivent dans des conditions difficiles, faute d'assistance. Il s'agit des habitants qui ont fui depuis mars dernier des violences attribuées aux rebelles ADF dans la chefferie voisine de Walesevankoutou. La notabilité de Walendubindi appelle le gouvernement et ses partenaires à apporter de l'aide à ces personnes déplacées, dont certaines sont déjà mortes de faim ou par manque de soins médicaux. C'est notable. Ont formulé cette demande lors de la récente visite d'une délégation de la MONUSCO dans la zone. Le point avec Jean-Claude Loki.
Ces déplacés proviennent de plusieurs villages de la chefferie de Walesevankoutou notamment, où ils ont subi des attaques des rebelles ADF au cours desquelles 6 personnes sont mortes. Ces 8705 ménages n'arrivent pas à se nourrir. Certains se font recruter comme travailleurs journaliers dans des champs des autochtones contre des rations alimentaires ou quelques francs congolais pour acheter quelques vivres. D'autres passent la nuit à la belle étoile à cause de manque d'abri, d'où cet appel de Jean-Noël Adjiba, notable Bindi.
Je peux vous demander vraiment de soutenir dans les aides humanitaires d'urgence dans le cadre de santé. Il y a des autres qui sont déjà maladifs.
Est-ce qu'il y a déjà des cas de décès par exemple?
Il y en a.
D'autres déplacés démunis vont se faire soigner à l'hôpital de la Veba et faute de moyens, ces déplacés n'arrivent pas à payer leurs soins et ce qui affecte les finances et donc le fonctionnement de l'hôpital, comme l'explique le docteur Richard Alafi, médecin traitant à cet hôpital.
Les médicaments que nous avons, nous les achetons nous-mêmes, d'autant plus que nous n'avons pas de subvention, nous n'avons pas de partenaires pour l'instant. Quand ils sortent comme ça, après avoir reçu les traitements, ça devient un manque à gagner pour la structure sanitaire.
Tous nos efforts pour joindre les responsables de la division provinciale des actions humanitaires n'ont pas abouti. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Capi.
Je vous l'ai dit dans les titres, dans le territoire de Beni, la localité de Nzenga a connu 2 jours de panique et de fortes tensions. En cause, l'interpellation par la population des rebelles des ADF dont l'un était déguisé en fou. La société civile dans le secteur des Rwenzori, qui salue la vigilance de la population, demande aux services de sécurité de tout mettre en œuvre afin de mettre la main sur les autres rebelles qui ont disparu dans la nature. Le récit de Marc Maroufimbo.
Tout a commencé jeudi dernier, quand la population a intercepté un rebelle des ADF aux environs de 19h locales, dit-on, déguisé en un détraqué mental, dans la localité d'Nzenga, groupement de Malambo, en secteur de Rwenzori. Selon la société civile de Rwenzori, le vrai faux fou a reconnu d'être venu de Bwera en Ouganda. Avec quel objectif? Un mystère. Ce vendredi, une panique encore règne dans la région, comme le confirme Meleki Mulala, coordonnateur de la nouvelle société civile dans le secteur de Rwenzori.
C'est la population qui l'avait appréhendé. et l'acheminer auprès des militaires FRDC. Il a avoué quelques faits. Il a reconnu appartenir à une communauté là, ugandaise. Il est ici depuis longtemps. Bon, il s'est déguisé comme un fou, pendant qu'il n'est pas un fou. Et on l'a tabassé sérieusement jusqu'au point de vouloir mourir. Les gens bon, se posent des questions parce qu'ils étaient au nombre de 4, mais les 3 autres ne sont pas encore arrêtés. Bon, on ne sait pas s'ils sont où.
Meleki Moulala appelle la population à la vigilance et à dénoncer toute personne suspecte dans les milieux. Il demande également aux services de sécurité de tout faire pour mettre la main sur les 3 autres EDF qui sont dans la nature, ce qui cause la panique dans la région. Beni, Marc Maroufimbo, Radio Okapi.
Dans l'actualité, sachez aussi que le président Félix-Antoine Tshisekedi a écarté l'option du retrait de la RDC de la communauté de l'Afrique de l'Est. Il l'a dit au cours de l'entretien qu'il a eu vendredi à Gaborone avec la communauté congolaise du Botswana. En expliquant les raisons de son désaveu à la force de l'EAC, le président Tshisekedi a affirmé que l'adhésion de la RDC à cette communauté était la réponse à une demande pressante des Congolais vivant dans la partie est du pays où s'exercent d'intenses activités commerciales. Pour le président Tshisekedi, dit, la RDC a adhéré de bonne foi à l'EAC pour faciliter le commerce transfrontalier et faire bénéficier à nos compatriotes les avantages de la libre circulation des biens et personnes au sein de l'espace, affirme un communiqué de la présidence. D'autres détails avec Alain Rumushinji.
Cette décision a été mûrement réfléchie, a en substance déclaré le président de la République, qui a dit ne pas la regretter du fait de la position géostratégique de notre pays situé entre deux océans. L'actuelle agression de notre pays par le Rwanda est une situation conjoncturelle créée par les dignitaires du régime actuellement au pouvoir, a affirmé le chef de l'État congolais. Le président Félix Tshisekedi garde l'espoir de voir un jour le Rwanda dirigé par un président non belliqueux qui entretiendra des relations pacifiques de bon voisinage avec la RDC, indique la presse présidentielle. Devant ses compatriotes, le président de la République a réitéré ses observations sur la force régionale de l'EAC. Il reste optimiste sur l'engagement des FRDC et l'appui de la force militaire de la SADC pour mettre fin à l'agression rwandaise. Cet échange entre le président de la République et sa diaspora de Gaborone s'est déroulé dans une effervescence particulière après l'inauguration de la nouvelle ambassade de la RDC dans la capitale botswanaise.
Dans l'actualité aussi, la commission électorale CENI a annoncé hier, tard dans la soirée, la clôture définitive des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Plus de 97% des Congolais ont été enrôlés, soit 47 millions d'électeurs sur les 49 millions attendus. S'adressant à la presse, le rapporteur de la CENI souligne que l'enrôlement n'a pas été effectif dans le territoire de Kwamout, province de Maïndombe, dans les territoires de Massissi et Rutshuru, au nord Kivu, ainsi qu'une petite partie de la commune de Maluku, ici à Kinshasa, à la suite de l'insécurité. Devant l'impératif du délai constitutionnel, la CENI a levé l'option de constituer une équipe mixte composée d'experts nationaux et internationaux pour conduire la mission d'audit externe du fichier électoral et s'en tient ainsi au respect strict du calendrier électoral qui prévoit les élections présidentielles et législatives nationales au 20 décembre 2023, souligne le rapporteur de la CENI. Patricia Nsea explique au micro de Michel Kifindangoy.
Du 16 mai au 20 mai 2023, audit externe du fichier électoral. Le 21 mai 2023, publication des statistiques des électeurs par circonscription électorale. Du 23 mai au 1er juin 2023, adoption de la loi sur la répartition des sièges par le Parlement. Le 25 juin 2023, convocation de l'électorat pour la députation nationale. Comme vous pouvez le constater, le compte à rebours a donc commencé. Nous sommes à 45 jours de la convocation de l'électorat à la députation nationale. C'est le moment d'inviter les partis et regroupements politiques ainsi que les potentiels candidates et candidats indépendants aux prochaines joutes électorales d'apprêter déjà les éléments constitutifs de leur dossier. La CENI organisera les élections générales le 20 décembre de cette année.
Autre nouvelle, la farine de maïs continue à être une préoccupation pour les populations de l'espace Grand Katanga. À Kolwezi, dans le Lualaba, il n'y a pas rareté de la farine de maïs sur le marché. Cependant, les prix qui sont d'application ne sont plus à la portée de toutes les bourses. Un sac de 25 kg se négocie jusqu'à 80 000 francs congolais. Le gouvernement provincial a pour sa part importé une importante quantité de maïs, dont il vend le sac de 25 kg à 45 000 francs. Jean Gandou.
Autrefois, un sac de 25 kilos revenait à 25 voire 30 000 francs congolais. Et depuis quelques mois, les consommateurs ne savent plus où donner de la tête. Ils sont obligés de débourser, selon la qualité de la farine, jusqu'à 70 voire 80 000 francs congolais pour se le procurer. Pour combattre cette spéculation des prix sur le marché, le gouvernement provincial du Lualaba a ouvert plusieurs points de vente où un sac de farine de 25 kilos est vendu à 45 000 francs congolais. D'après des témoignages, ces points de vente sont pris d'assaut depuis les petites heures du matin par de nombreuses personnes qui bravent le froid en cette période de saison sèche. Reçu tout récemment à Kinshasa par le ministre de l'Agriculture, Fifi Masuka, gouverneur du Lualaba, a tenu à rassurer sa population.
La province du Lualaba est en train de travailler sur l'agriculture. Aujourd'hui, nous sommes fiers parce que nous avons un stock en maïs de 2 ans. Mais nous voulons avoir le ministre de l'Agriculture à nos côtés pour nous orienter en plus de ce que nous sommes déjà en train de faire.
Certaines personnes pensent que le prix du maïs pourrait baisser à la faveur de la récolte qui interviendra très prochainement. Cependant, elle voudrait que les routes des dessertes agricoles soient aménagées pour faciliter l'évacuation de cette denrée de première nécessité vers les centres de consommation. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Actualité internationale. Nous sommes d'abord au Sénégal. Rassemblement géant à Dakar pour faire pression sur le leader sénégalais contre sa candidature à un troisième mandat. Des milliers de personnes ont manifesté hier à la capitale sénégalaise contre un troisième mandat non autorisé par la Constitution pour le président Macky Sall. Ce, au moment où celui-ci n'a pas encore déclaré s'il serait ou non candidat à l'élection présidentielle prévue en février 2024. Pendant ce temps, en Mauritanie, ce samedi, se tiennent les élections législatives et locales. La campagne s'est clôturée jeudi. Près d'un million, 1,8 million sont appelés à choisir leurs députés, maires et conseillers régionaux. Un triple scrutin qui présente des nouveautés par rapport aux précédents et qui présente un enjeu important pour le parti au pouvoir.
L'invité.
Une délégation de la MONUSCO conduite par son chef de bureau en Ituri vient de séjourner dans la chefferie de Wallis-et-Vankoutou. Pendant 2 jours, l'équipe a rencontré les différentes couches sociales dont des chefs coutumiers, les représentants de la jeunesse ainsi que les autres acteurs de la société civile. Objectif de ces consultations, examiner des mécanismes à mettre en place pour renforcer la sécurité et permettre le retour des personnes déplacées dans leur village et consolider la cohésion sociale entre les populations. Mais comment la population apprécie-t-elle cette démarche. Pour en parler, nous recevons Faustin Mboma Baba Nialiao, président de la communauté Niali de Tchabi. Il s'entretient avec Jean-Claude Loki.
Faustin Mboma, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelles sont vos impressions après cette visite du chef du bureau de la MONUSCO dans votre chefferie?
Avec cette visite de la MONUSCO, le chef de bureau même, il n'était pas seul, il était accompagné de son staff pour essayer un peu de voir la collaboration qui règne entre la MONUSCO et la population.
Qu'est-ce que vous lui avez dit?
Nous lui avons parlé sincèrement que le climat n'était pas bon avec la population.
Est-ce qu'on sait pourquoi?
C'était juste par rapport aux atrocités qui s'étaient passées juste au mois de mai 2021, que la population a jugé que c'était inopportun que la MONUSCO reste à Tchabi parce qu'il n'avait pas protégé la population comme il se doit. La population a jugé que au lieu de vivre avec la MONUSCO, au moins la MONUSCO puisse partir de Tchabi.
Après votre échange hier avec le chef de bureau et son staff, il semble qu'il y avait beaucoup de spéculations, des fausses informations qui circulaient, des rumeurs. Qu'est-ce que vous avez compris finalement après votre échange avec le chef de bureau de la MONUSCO?
Ce que j'ai compris avec partant des échanges qui a réuni la notabilité ici dans la salle de la réunion ici de la chefferie de Banyali Tchabi,
qui a été construite par la MONUSCO.
Les échanges ont tourné juste pour essayer un peu de barrer la route pour les tireurs de ficelles qui cherchent à partager la population et la MONUSCO, à partager la MONUSCO et les forces loyalistes. Nous nous sommes mis tout autour d'une table et commençait déjà à voir comment nous allons remettre cette union pour combattre ces ennemis de la paix qui veulent diviser la communauté de Banyali Tchabi et les forces de sécurité.
Est-ce que vous pensez que les explications que la MONUSCO vous a données, est-ce que ça a réussi à convaincre justement la base, la notabilité, les jeunes notamment qui souvent sont derrière ces sentiments anti-MONUSCO?
Monsieur le journaliste, vous étiez avec moi hier dans la salle. Vous avez vu la représentation de tout le monde. Il y avait les mamans, il y avait les jeunes, il y avait les notables, il y avait les chefs de village, il y avait tout le monde, il y avait des chefs de groupement. Donc, tout le monde a été convaincu que ce n'est pas vrai. Tout ce que les gens sont en train de spéculer au nom de la MONUSCO à Tchabi. Donc, pour le moment, tout ce que le chef de bureau nous a rassuré, il nous a rassuré que la MONUSCO, s'ils veulent faire leur patrouille, ils vont être ensemble, même si ils vont être ensemble, même avec la jeunesse, ils doivent à chaque fois les accompagner dans les patrouilles mixtes qui vont commencer à bientôt. Et nous allons étendre cette sensibilisation que tout le monde, toute la population comprenne les sens et les rôles que joue la MONUSCO à République démocratique du Congo, pourquoi pas ici à chefferie de Banyali Tchabi.
Vous avez aussi saisi cette opportunité pour pouvoir expliquer à la MONUSCO, au chef de bureau, certains besoins communautaires, quels sont ces besoins et quelle a été la réponse du chef de bureau.
Vraiment, nous sommes satisfaits par rapport aux précisions que le chef de bureau nous a rassurées hier. La population a accueilli avec joie. Par rapport aux destructions qui sont enregistrées ici à Banyali Tchabi, il nous a rassuré que d'ailleurs, dans les brefs délais, la MONUSCO va prendre la réhabilitation du centre de santé à charge. Il va construire un marché à Tchabi. Donc c'est quelque chose dont nous avons salué sa présence et nous sommes vraiment contents que la MONUSCO va nous doter d'une radio communautaire qui va nous aider à sensibiliser. Qui a sensibilisé notre communauté pour que la communauté soit unie et que les situations malheureuses qui étaient passées auparavant, qu'on puisse mettre ça dans les oubliettes.
Parce que ça peut booster l'économie, ça peut booster le développement.
Vraiment, ça va booster le développement parce que la petite accalmie et les quelques populations déjà ici rentrées dans des différents villages, ils ont commencé déjà à cultiver les champs. Donc, nous croyons dans 2, 3, 4 mois ici, la production va commencer. Et puis, nous produisons ici les riz, les haricots, nous produisons aussi les bananes, nous produisons aussi les ignames. Tout ça, nous allons alimenter la ville de Bounia en général.
C'est un bon moment, je vous dis merci.
Merci, monsieur le journaliste.
Voilà, c'était là notre invité, le président de la communauté Niali de Tchabi. Il répondait aux questions de Jean-Claude Lokidile. Voilà tout pour ce journal coordonné par Pierre Lamenji, supervision Alain Rungmouchinge, Jean-Noël Mokondo à la mise en onde et Belinda Bossouma devant ce micro. Merci.